Des vies françaises à présent. Cette semaine, c'est le deuxième épisode de notre rencontre avec Michel. Il a 66 ans, victime de viol et d'inceste durant son enfance. Et il raconte aujourd'hui à Charlotte Péri comment il a réussi à se reconstruire.
Je me sentais exclu. Je vais aller voir les exclus.
Michel, trop de silence.
Au début, sans me rendre compte que parmi les détenus que je côtoyais, il y avait des gens qui avaient violé des enfants.
Épisode 2. Là, Michel, on est chez vous. Vous avez été victime donc à la fois d'inceste par un cousin et aussi de plusieurs agressions par un prêtre et par un directeur d'école dans le milieu catholique. Et par la suite, vous avez jamais entamé une action en justice ?
Jamais. Non, je suis parti de l'hypothèse que ce responsable d'école n'était plus de ce monde parce que ça datait quand même de plus de 30 ans. Quant au cousin, bien des années après, je l'ai rencontré à l'enterrement de mes parents, enfin de ma mère, puis de mon père. Il était, lui, devenu un petit vieux. Et moi, j'étais encore dans la force de l'âge. Ça, je dirais, cassé quelque chose dans ma représentation de ce que j'avais vécu avec lui. Voilà. Donc, les rapports s'étaient inversés. Donc, j'avais plus besoin de ça, quoi. Donc, par la suite... Je me suis beaucoup investi dans du bénévolat. Je me suis adressé à des grandes associations caritatives. Et puis, il y en a une d'entre elles qui m'a dit « On te propose soit de venir dans un accueil d'urgence de SDF, soit de venir dans un centre de détention. » J'ai pris les deux. En me disant comme ça, je vais aller à l'aventure d'autres mondes. Aller rencontrer des gens que je n'aurais jamais l'occasion de rencontrer autrement.
C'était aussi une manière de vous occuper l'esprit, quand même.
C'était une manière de m'occuper l'esprit, de penser à autre chose, d'être tellement occupé que je n'avais pas le temps de réfléchir à tout ça. Nous, en tant que bénévoles dans ce centre de détention, l'avantage qu'on a, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ces gens sont là. Donc on rencontre l'homme et pas le criminel. C'est une rencontre d'homme à homme, donc tout va bien. Et puis un jour, un de ceux que je côtoyais, j'ai su ce qu'il avait fait et pendant longtemps, je n'ai plus été capable de lui serrer la main quand je le rencontrais. Il m'a fallu plusieurs années avant de pouvoir à nouveau lui serrer la main en le voyant.
C'est un pédophile.
Oui. Enfin, c'était un incestueux. Il avait violé ses enfants. Et il m'a fallu du temps pour me dire, mais en fait... Il a été jugé, condamné, mis en prison. Qu'est-ce que je suis, moi, pour le juger à nouveau? Il est déjà jugé, il est là en train de purger une peine. Tout ce que je peux espérer, c'est qu'un jour il sorte et qu'il ne recommence pas. Et j'en ai vu plusieurs comme ça qui disaient « un jour je vais sortir, comment je vais faire dehors ?» Donc ça a participé sans doute à changer mon point de vue sur tout ça. Et donc, j'étais dans une des grandes associations caritatives françaises, une des plus grandes, et à un moment donné, on a parlé de justice restaurative. Et je me suis dit, ça, c'est un truc formidable, il faut que je m'intéresse à ça. Et c'est comme ça que, petit à petit, je suis devenu membre de la communauté pour participer à des rencontres condamnées victimes ou détenues victimes. Si on laisse sortir un ancien détenu sans lui avoir donné vraiment l'occasion de réfléchir à ce qu'il a mis en acte, on court le risque d'une récidive. On n'aura pas mis les garde-fous nécessaires. Alors que là, je ne dis pas que c'est miraculeux, que c'est merveilleux et tout ce qu'on veut, mais c'est une possibilité pour limiter beaucoup les risques de récidive.
C'est-à-dire qu'un condamné ou un détenu va écouter une victime raconter ce qu'elle ressent, les effets que ça peut produire.
Oui, c'est souvent la première fois qu'ils entendent une victime s'exprimer sur ce genre de choses, qui va pouvoir faire ressentir l'ampleur de la blessure subie, ils ne se sont jamais posé ces questions-là. Et s'ils n'ont jamais entendu le récit d'une de leurs victimes ou d'une victime d'un crime semblable, ils n'ont peut-être pas conscience de l'ampleur de ce qu'ils ont fait. Ils peuvent avoir l'impression, ah oui, mais c'est un petit enfant, il va oublier. C'est tellement plus facile de penser comme ça. Mais la réalité, ce n'est pas celle-là du tout. Et de l'entendre, ça peut changer le point de vue.
Mais vous, de participer à ces séances de justice restaurative, même en tant que membre de la communauté, qui est en fait une personne qui est là pour représenter la société, est-ce que vous, ça vous a aidé?
Oui, tout à fait. Ça change le point de vue à la fois des auteurs, des victimes et des membres de la communauté. On a tous gagné quelque chose. On a pu nous-mêmes rencontrer des auteurs. Et donc là, ça permet de remettre les choses à leur place. Qu'est-ce que c'est qu'une victime ? Ben, c'est un humain comme nous. Qu'est-ce que c'est qu'un auteur ? C'est un humain comme nous aussi. Et donc, on peut encore dialoguer avec eux et on peut essayer de comprendre ce qui s'est joué. Et en comprenant ça, on retrouve l'humanité en chacun. Et je crois que c'est ça qui est le plus important.
Vous voudriez renouveler l'expérience ?
Ah oui, c'est passionnant, oui. Oui.
Qu'est-ce qui est aussi passionnant ?
Ben, c'est de voir à quel point, partant de quelque chose d'indicible, on arrive à renaître, en quelque sorte. J'ai trouvé que c'était formidable de voir chacun relever la tête. Et puis, il ne s'agit pas de pardon, mais il s'agit de retrouver l'humanité en chacun. Et si, grâce à ça, on peut faire en sorte qu'il y ait moins de récidives, et donc, pour l'avenir, moins de victimes, eh ben, même s'il n'y en avait qu'une, c'est déjà ça de gagner. Ça a été ma façon à moi d'essayer de transformer ça en positif, d'en faire quelque chose pour pouvoir réémerger en quelque sorte. Je ne me sens plus victime. Il m'arrive encore d'avoir des flashs de certaines choses qui peuvent redébarquer, mais ça ne me surprend plus autant que ça pouvait le faire dans le passé. Et j'ai mis depuis longtemps des mots sur tout ça. Les mots que d'autres n'arrivent toujours pas à prononcer forcément. Et de rencontrer des gens qui ont commis des actes semblables peut les aider à mettre des mots sur ce qui a pu se passer. Et moi, j'ai retraversé tout ça, en quelque sorte, pour pouvoir l'intégrer dans mon histoire. Et donc, je ne suis plus victime, mais je l'ai été.
Être victime, c'est être emmuré dans un silence et dans l'indicible.
Dans l'indicible, oui, tout à fait. C'est de ne pas même oser y penser, mais tout en y pensant constamment. C'est très paradoxal, mais en même temps, les images sont toujours là. Mais on n'ose pas y penser plus avant, on n'ose pas mettre des mots, on n'ose pas. Et on n'ose surtout pas le dire.
Même encore aujourd'hui, c'est difficile quand même de mettre des mots dessus.
C'est pas vraiment difficile. Parce que je saurais maintenant dire les choses, mais à quoi bon ? Enfin, j'ai pas non plus envie de choquer les gens à qui je parlerai. Parce que ce que je pourrais décrire, c'est. C'est pas racontable, quoi. C'est pas. Pourquoi voulez-vous que j'aille raconter ça à qui que ce soit ? Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de faire savoir que ça existe, de manière à ce que la société dans son ensemble comprenne qu'il y a quelque chose à traiter, qu'on peut pas laisser des enfants subir ça. Et que ça va permettre à des personnes qui sont emmurées dans le silence de sortir de ce silence et de laisser le côté victime dans le passé et de enfin vivre.
Les vies françaises, portrait sonore, signé Charlotte Perry.